Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Allora Michele, come
mamma
va?
Mia,
che forza, che voce, eh?
Stamattina va meglio.
Bene, sì, tutto bene qui.
È il Torino, è il Torino che va
bene. Cosa ha fatto il
Toro? Ha tirato fuori le corna.
Ha avuto la fortuna di vincere a Verona.
Ah sì, allora
la fortuna da 3-1, 3-2, insomma.
Allora facciamo
i tre di seguito, bisogna farli, eh?
Allora facciamo un bel
Sassa Rosa.
Bravo, grazie.
Renato, eh.
Sì, sì, perché no?
47 anni. Vai, tutti vai. Tutto va bene? Sì, insomma.
Va bene.
Siamo contenti di ritrovare amici, come sempre, ormai, per una nuova stagione. Allora, il y a un nouveau téléphone, parce que pour l'instant, l'ancien, voilà. Donc, c'est le 06 95. 66 31 59. 06 95 66 31 59. Bon, il est un petit peu compliqué, mais bon, vous le notez dans vos contacts et dans, voilà, dans deux, trois fois, vous allez pouvoir l'utiliser sans aucun problème. Voilà. Donc, on est content de vous retrouver. Vous êtes bien à l'écoute de Capuch. Et puis, on salue Enrico Mastro Giovanni, qu'on n'arrête pas d'embêter ce matin. Monte le son, bête le son, gna 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 gna. Et alors, il adore ça. Voilà. On salue aussi Carmelo. On salue aussi Philippe Maran. La Mengual qui est dans les couloirs avec les invités déjà. Et puis, juste avant de faire un hommage, bien sûr, à Toto Schillaci, on est obligé. Hein. On rappelle que Luna Rossa est en finale de la Coupe Louis Vuitton en voile. C'est extraordinaire. Et la finale se jouera à Barcelone en octobre. On précise que la Coupe Louis Vuitton est le trophée le plus vieux au monde. Il date de 1851. Avant l'unification de l'Italie, 10 ans avant. Et voilà. Et puis également aussi un petit truc là pour embêter nos amis français. Oh, j'aime bien. Eh bien, la production de vin italienne va dépasser la production de vin française. On repasse devant.
Et dernière. Du bon ou du pas bon?
Alors. Comme il est pas très bon en France parce qu'il y a eu vraiment une saison difficile, il sera très bon. Il y en a pas beaucoup, mais il sera bon. Voilà.
D'accord.
Voilà, en Italie, donc on est repassé en tête. Voilà. Donc ça, c'est bien. L'année dernière, c'était français. Donc, c'est la lutte à chaque fois.
Il faut boire, alors.
Alors, il faut boire avec modération.
Avec modération.
Hein.
Modération.
On peut boire avec modération. Voilà, il y a une annonce d'association. Alors ça, c'est assez étonnant. C'est le festival littéraire qui va se dérouler du 4 au 6 octobre à Gif-sur-Yvette, Paris-Saclay. C'est un festival sur les gens qui traduisent, tu sais, les livres, les films, etc., pour qu'on puisse, nous, les lire, quoi. Un peu comme on va avoir Huguette Atem tout à l'heure. Elle, c'est une traductrice de films, notamment de Ettore Scola. Le festival littéraire du 4 au 6 octobre. Alors aujourd'hui dans Capuch, le cinéma italien est à l'honneur avec deux invités de renom, Tommaso Lazzotti, acteur de films et de séries télé et petit-fils de Ettore Scola, et Huguette Atem, comédienne, professeure d'italien, traductrice et adaptatrice du film Une journée particulière qu'on connaît tous de Ettore Scola. Donc on va parler du grand cinéma italien. Mais avant ça, on va faire un hommage à notre ami Toto Schillaci. Tu l'as déjà fait tout à l'heure avec la chanson d'Albano. Quoi dire, c'était extraordinaire quand
c'était
il y avait ce mondial 90.
Voilà, nous a fait rêver. Notte magiche.
Voilà, notte magiche.
Quand on voyait les yeux de Toto, comme
ah oui. Un peu comme Tardelli, tu te rappelles, en 82.
Oui, mais encore plus.
Parce encore
lui,
plus.
Il venait vraiment du bas. C'était quelqu'un qui s'était fait tout seul, comme ça. Ouais, il est arrivé
simple.
À Turin, il venait de la Sicile, de Messine.
Ouais,
il s'est fait tout seul, il était un homme simple, comme ça. Il a été aimé par tout le monde, d'ailleurs. Il a été meilleur buteur.
Meilleur buteur, avec ses buts,
avec ses buts.
Hein.
Quand on voyait ses yeux qui s'illuminaient comme ça, quel dommage cette demi-finale.
Alors on va écouter là tout de suite les supporters à son enterrement qui criaient le fameux Toto Schillaci, et puis après bien sûr on aura Notte Magiche et Benato avec Nannini.
Gianni.
cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo ancora sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano, non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura.
Un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato, ma no. E va bene, lo so. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle 6 di mattina.
Ma tu non piangere.
Aligre FM presenta Cappuccino.
Il presentatore del 9:30 è Michele Gotti con i suoi invitati.
Oui, 9h30, un po' passato, hein. Mais c'était normal de faire cet hommage à Toto Schillaci. Et puis, je vais peut-être changer le jingle, parce qu'à chaque fois, je dis, il fait beau. Oui. Et à chaque fois, ici...
C'est pas toujours ça. Ça laisse à désirer.
Il y a toujours, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui va pas. Merci Alain d'être avec nous pour cette émission spéciale cinéma italien.
Merci.
Alors, il y a des annonces.
D'expositions, de théâtre et de cinéma. On va commencer par des expositions. Une petite exposition pour les fanatiques de Hugo Pratt, c'est l'exposition Corto Maltese à la BPI du Centre Pompidou. Il y a beaucoup de dessins de Hugo Pratt et les préparatifs des bandes dessinées. On a notamment les romans que le romancier qu'aimait Hugo Pratt qui figure dans ses bandes dessinées et ce héros mythique. C'est gratuit à la bibliothèque, la BPI de Beaubourg. C'est jusqu'au 4 novembre. Ça, c'est la petite exposition. Les grandes expositions, c'est l'exposition de la collection Torlonia au Louvre. Torlonia, cette riche famille de banquiers et de collectionneurs romains qui avaient même fouillé dans les sites antiques de Rome. Dernière, la Villa Torlonia, c'est la villa qui a occupé Mussolini pendant la guerre, qui est maintenant devenue un musée. Ces Torlonia avaient réuni jusqu'à 300 sculptures de marbre antique et il y en a une grande partie qui est exposée au Louvre. Donc c'est jusqu'au 11 novembre cette expo. Ensuite, l'autre expo qui a commencé plus récemment, c'est de la collection de la Galleria Borghese à Rome également, où sont venues nombreuses toiles. On a par exemple des toiles du Dominicain, la Leda de Leonardo da Vinci, toiles de Titien, Rubens, Raphaël, Lorenzo Lotto, Bernini, Veronese. Voilà. Beau musée et belle exposition. Alors le cinéma, on est en 2024, c'est le centenaire de la naissance de Marcello.
C'est aujourd'hui, je crois.
Non.
Ah bon? Parce que sur la RAI, il me semble que j'ai entendu ce matin que...
C'était à cause de 90 ans des Sauvé-Alors.
Voilà. Oui, vendredi. Donc évidemment,
90 ans des Sauvé-Alors.
C'était le couple mythique du cinéma italien, donc, notamment dans ce magnifique film de Ettore Scola. Bon, et puis dans les films tirés de Eduardo De Filippo aussi. Alors, la Cinémathèque, c'est depuis le 11... Et c'est jusqu'au 29 septembre. Donc là, il y a tous les films de Marcello, y compris bon, les films avec Fellini. Et ça a commencé par La Dolce Vita, présentée par Chiara Mastroianni. D'autres films qui sont présentés, présentés par Jean Gilly, le grand spécialiste du cinéma italien. La Cinémathèque nous offre des tarifs réduits.
Alors, avec Catherine Deneuve qui viendra peut-être présenter un film, pourquoi pas.
Tu t'avances un peu peut-être, mais bon. Peut-être en tant que spectatrice, peut-être. Il y a un tarif réduit. Ce tarif réduit, c'est tout simplement MM Cappuccino.
Ah oui, directement on
voilà,
va là-bas.
On va en caisse ou on réserve en ligne avec en donnant le mot de passe MM comme Marcello Mastroianni Cappuccino. Et là, vous avez un tarif réduit à 4 euros. Et cette rétrospective sera continuée par une autre italien qui est Pietro Germi. Là, sera du 10 au 27 octobre.
D'accord. On a le temps d'en parler encore d'ici là, bien sûr.
Théâtre. Alors là, théâtre, c'est Goldoni. Goldoni, justement, Huguette Hatem, notamment, a traduit, peut-être pas cette pièce précisément. Ça, c'est la Vedova Scaltra, la veuve rusée. Cette veuve, c'est quand même une jeune veuve et qui a 4 prétendants soupirants, lequel va toucher son cœur. Il y a évidemment Arlequin qui est au milieu de tout ça. Et il y a aussi même un oncle qui est un peu amoureux, enfin, qui aimerait bien aussi s'allier à sa nièce. Et c'est là que le théâtre nous offre des invitations pour nos auditeurs et donc on posera une question sur Goldoni à la fin de notre partie, vers 10h30. Et sera suivi par La Serva Amorosa, toujours de Goldoni, qui sera au théâtre de la Porte Saint-Martin. Ce sera avec Isabelle Carré. Voilà, on va dire que c'est tout pour aujourd'hui. On parlera dimanche prochain de la Femme au bouquet.
Deux pièces de théâtre à vous proposer la semaine prochaine.
Celle de La Femme au bouquet de Desiderio Montironi.
Voilà, merci à toi. Tu restes avec nous?
Yes.
Oui, c'est une plaisanterie, bien sûr. Bien sûr qu'il reste avec nous. Pourquoi? Parce que le cinéma italien, le grand cinéma italien va être à l'honneur là dans quelques minutes. Et pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, on va écouter la musique du film Qu'est strano chiamarsi Federico de André Aguer.
Salve, e sono Federico Fellini.
Virtù, questo siamo a scuola.
Ci abbiamo pure la mascotte.
Lavora con noi.
Datemi un parere su questa novella.
Il giovane Federico.
Sì, ma questa fa ridere.
Signore e signori, è il momento della macchietta.
Oh, questo pezzo in particolare l'ho scritto io, eh.
Dice, mo sei andato al cinema. Ma...
certa attrazione fin da ragazzetto verso certi personaggi che venivano considerati stravaganti, cioè gli artisti.
Ma se gli devo dire una cosa al signor Scola, scusi, ma perché lei nei suoi film fa mio figlio così brutto? Fellini lo fa bellissimo.
Come via madre?
Lui Federico, io Ettore, lavoriamo nel cinema.
Voilà, alors là, on écoutait la bande-annonce, et pourquoi ? Parce que nous sommes avec Tommaso Lazzotti. Bonjour, comment ça va ?
Bonjour.
Bonjour, tutto bene ?
De m'avoir invité, molto bene, grazie. Voilà.
Content parce qu'on a vu un film extraordinaire vendredi au Ciné-Club, avec le Cappuccino, comme est strano chiamarsi Federico, et tu joues dedans.
Oui, je joue le rôle du jeune Federico Fellini quand il avait 20 ans, quand il est arrivé à Rome. Il a commencé sa carrière d'abord dans un magazine de humoristique, et puis après il est devenu scénariste, et puis après réalisateur.
Voilà. Alors Alain avait une petite bio.
Tommaso a commencé donc sa carrière avec ce rôle de Fellini dans Che strano chiamarsi Federico. Ensuite, il y a un Sonderkommando.
Oui, tout à fait. C'était un court-métrage où je jouais le rôle d'un homosexuel à Auschwitz.
C'est une histoire vraie. Pendant la guerre. Et qui a obtenu un Nastro d'Argento, donc dans les.
Exactement, c'est un prix assez important.
Les prix italiens.
Alors, j'ai fait une série télévisée avec Sergio Castellitto à propos
Dalla
Chiesa.
Ah oui, du général Dalla Chiesa.
Exactement. Dalla Chiesa, qui était un personnage assez important. Et moi, je jouais le rôle d'un brigand. Brigate rosse, un terroriste communiste. Et puis après, j'ai eu l'occasion de jouer à nouveau le rôle de Fellini dans un film américain qui s'appelle The Poison Rose de George Gallo, qui est un réalisateur américain assez important.
Avec Morgan Freeman.
Hein, voilà, c'est Morgan Freeman.
Tout à fait, ouais. Tu es le petit-fils de Scola. Oui. On est obligé de le dire parce que c'est vrai que c'est compliqué. On se dit, mais voilà, on ne peut pas occulter que tu es le petit-fils de Torres Scola que tu as bien connu. Et c'est pour ça un peu que tu es là aussi. Mais tu as tourné aussi dans ce film Federico Fellini. Oui. D'ailleurs, une interprétation extraordinaire. Hein. Alain, je ne sais pas si.
Oui, bien
vraiment,
sûr.
Merci beaucoup.
Une voix, moi, c'est ce que j'avais retrouvé. Aussi dans cette interprétation un peu une voix à la Fellini, comment t'as fait?
Ouais, justement parce que lui il avait une voix assez particulière, il avait une voix haute et nasale et il avait un accent de Rimini, du nord de l'Italie, alors que moi j'ai une voix assez basse et je viens de Rome, du coup j'ai un accent complètement différent. Et du coup, j'ai dû travailler un peu sur ça, effectivement. Je cherchais de reproduire sa voix.
Et comment s'est passé le tournage, puisque c'était ton grand-père qui a... C'est son dernier film, hein, en plus.
C'est son dernier film.
C'est symbolique, c'est incroyable. Ouais. Il fait son dernier film avec sur Federico Fellini, qui est son grand ami.
Et il avait, en plus, il avait décidé de s'arrêter. Il ne voulait pas faire ce film, en fait. Et finalement, il a... Moi et ma famille, on l'a convaincu, en fait. C'est pour ça qu'on est tous dans le film. Et quand je te disais l'autre fois, en fait, alors, il était quelqu'un qui gardait la sphère familiale et le travail très séparés. En fait, il était un grand-père extrêmement affectueux qui s'occupait de nous, mais il n'aimait pas tellement parler de son travail et il n'aimait pas tellement parler de soi, de lui-même. Et du coup, vers la fin de sa vie, j'ai eu aussi la chance de le connaître comme réalisateur. Et je l'ai adoré, évidemment.
Et toi, ta carrière, que tu commences à faire quelques rôles, mais là, c'est un grand rôle. T'en es où aussi? Parce que tu es entre la France et l'Italie. Donc
oui, mais en France, je ne joue pas. Je fais autre chose en France.
Oui, parce qu'en fait, tu disais en antenne qu'il y avait l'accent, hein, l'accent italien. Et ça, c'est souvent le problème des Italiens quand ils viennent.
Exactement.
Ici. Après, quand ils parlent français, il y a un petit accent. On sent tout de suite que.
Oui, voilà, que je ne suis pas français, évidemment.
Voilà. Et en Italie.
Et en Italie, oui. En Italie, je continue. Ouais. Je fais
C'est difficile de s'insérer. Est-ce que le fait que tu t'appelles, tu es le petit-fils de Scola, est-ce que ça t'aide ou pas, au contraire?
Ça m'aide pas du tout, mais je pense même pas que ce soit un obstacle. De toute façon, j'ai un autre nom de famille. Du coup, personne ne le sait.
Mais Lazzotti.
Alain. Oui, Lazzotti. Donc, il est donc filié d'Arte, on peut dire, parce qu'il n'y a pas que le grand-père, puisque son père aussi est réalisateur.
Et
ta mère était, scénariste, avait travaillé avec Ettore Scola.
Oui, tout à fait. Ma mère est scénariste, ma tante est scénariste. Mon frère fait de la musique. On n'est pas pragmatique dans la famille.
Alors on va écouter la musique du film. Donc che strano chiamarsi Federico. On écoute tout de suite la musique du film.
Rester sur le film, on peut dire aussi que donc Tommaso joue le rôle de Federico Fellini, mais que le rôle du jeune Ettore Scola, qui débarque lui en 48 au Marco Aurelio, est joué par Giacomo Lazzotti, donc qui est le frère, qui a un peu plus de ressemblance physique d'ailleurs avec Ettore.
Exactement, oui, c'est mon frère qui joue le rôle d'Ettore Scola. Et il lui ressemble beaucoup. Et en plus, je pense que l'idée de faire jouer Ettore Federico à deux frères, je ne sais pas. En fait, ils étaient très proches. Du coup,
oui, c'est vraiment ce film, c'était pour montrer son amitié avec Federico, qui n'était plus là. Donc, c'est le petit frère, oui, aussi par rapport au grand frère. De même que Ceravamo tanto amati, nous nous sommes tant aimés, c'était vraiment un hommage qu'il voulait rendre à son idole Vittorio De Sica. Donc en utilisant à la fois les acteurs qui avaient utilisé De Sica, il y a cette fameuse séquence du jeu télévisé, enfin du jeu radio, je ne sais plus très bien, où on demande à un des personnages, c'est Stefano Satta Flores, comment Vittorio a réussi à faire pleurer le gamin avec les cigarettes, et puis donc il y a une fausse, des réponses inexactes, et c'est qu'il a mis dans, Vittorio avait mis dans la poche du gamin des cigarettes en disant, tu m'as volé mes cigarettes, tu fumes, et voilà.
Le petit,
et c'était la vérité, oui,
c'était,
parce
qu'après, oui, on le voit, c'était un grand humaniste, ouais. Sophia Loren aussi, qu'on retrouve dans Sophia Loren et Marcello, qu'on retrouve dans maintenant le nom échappe, la Una journée particulière aussi, tout ça, c'est les aussi les acteurs de Vittorio De Sica.
Alors, moi, ce qu'on en discutait aussi un petit peu en antenne, c'est que en Italie, Torre Scola n'était pas forcément aussi connu qu'en France. Parce qu'en France, quand je te disais que quand il y avait des films de Scola qui sortaient, les gens faisaient la queue sur le trottoir pour aller voir ces films en version italien sous-titrée. Ce qui était extraordinaire, quoi. On voit absolument plus ça maintenant. Et ça, c'est quelque chose que tu as découvert, toi aussi.
En Italie aussi, je crois, dans les années 70, 80, 70-80. Aujourd'hui, les jeunes gens, les ventenaires, on n'est pas du tout en fait. Mais il y a des Français ventenaires qui le connaissent en fait. Du coup, j'ai trouvé peut-être qu'ils font des études spécifiques de cinéma, ouais. Mais que des fois, les Français, je trouve, que le connaissent mieux que les Italiens. Oui.
Mais c'est vrai quand on va sur Internet, qu'on recherche un petit peu, voilà, quelques informations sur toi ou Ettore, et c'est vrai qu'on voit des vidéos sur YouTube où il y a des explications mais très carrées sur les films de Scola, quoi. C'est un truc et c'est des jeunes.
Des YouTubeurs français.
Si, français, complètement. Ouais, ouais. Est-ce qu'en France, on n'a pas un peu cette nostalgie du cinéma italien qui n'existe plus?
Oui.
Est-ce qu'en Italie, on a tiré un trait sur ça?
Oui.
Peut-être, c'est peut-être aussi bien. Peut-être il faut aussi aller de l'avant. Il faut peut-être aussi... Les Fellini, etc., il n'y en a plus. Donc, est-ce qu'il faut
tout... C'est vrai, il n'y en a plus. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Du coup, il y a ça aussi en Italie qui est un problème. Surtout après la pandémie... Et surtout avec ce gouvernement, on a vraiment très peu d'argent. Il y a très peu d'argent pour la culture en général, mais pour le cinéma surtout. Et du coup, ça va assez mal, je dirais, en Italie. Ouais. Mais on a tous, je trouve, un debito, comment je peux dire ça, avec le cinéma de mon grand-père. Surtout de mon grand-père, parce que je pense que vraiment, lui, et ça... Je pense que vraiment toute l'Italie est un peu en débitant avec lui. C'est vraiment, il a été vraiment le premier qui s'est occupé de la, je trouve, de la condition de la femme ou des discriminations des homosexuels. Et aujourd'hui, c'est à l'époque, mais c'est à la mode. Mais à l'époque, il n'était pas du tout. Du coup, je pense que vraiment, quelque chose a changé grâce à lui.
Oui, il a abordé des sujets, en effet, de société qui, maintenant, deviennent actuels.
Il devient très à la mode, mais
oui,
vraiment.
Oui, compliqué.
Et oui, et c'est ça. Du coup, je pense vraiment qu'il a changé la société de quelque façon.
Oui, oui, mais le problème du cinéma d'Italie, c'est la télévision qui a...
Avec Berlusconi, tout le monde dit que quand tu as eu
la boom économique, ça aussi, et puis il y avait beaucoup de coproductions entre la France et l'Italie, qu'il n'y avait pas, par exemple, entre la France et l'Espagne. La France méprisait un peu le cinéma espagnol, qu'on redécouvre maintenant, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais c'est la grande union, c'était entre la France et l'Italie, avec des acteurs français, Marina Vladi, et Marcello qui s'est marié avec, qui a tourné dans des films français.
Et puis Delon, Belmondo, il y avait un pont à chaque fois entre la France et l'Italie. Alors on va écouter une chanson que tu as choisie, c'est Mia Martini et Roberto Murlo. Pourquoi ? Parce que ça aussi c'est une chanson quand même des années 70, je dirais.
Ben, je l'ai choisie parce que mon grand-père était d'origine napolitaine. Il venait près de Naples, pas exactement Naples. Et c'est une chanson napolitaine que j'aime bien et que j'ai écoutée avec lui la dernière fois. Du coup, c'est pour ça que je l'ai choisie.
C'est pour toi.
Merci.
Comincia a capire come inutile sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo di paura, sta cercando e c'è impara. Thank you. aria dà, senza guardare tu continua a volare, mentre il vento ci porta là. A dolce stanza di parole più belle che ti piglia per te
Et vous êtes à l'écoute de Cappuccino sur le 93.1, c'est Aligre FM, la radio. Le téléphone, c'est le 06 95 66 31 59. Et nous sommes avec Tommaso Lazzotti. Merci d'être là avec nous, qui nous parle du cinéma italien, du grand cinéma italien. Et Huguette Atem. Alors, on va parler maintenant avec Huguette.
Oui.
Pourquoi elle. Mais tu disais que c'était important pour ton grand-père que ce soit Huguette qui traduit ses films.
Absolument, il voulait que ses films soient traduits juste seulement par Huguette Atem.
J'ai commencé par traduire une journée particulière pour le théâtre. Et à partir d'une journée particulière, j'ai rencontré Ettore Scola parce qu'il était très attentif à tout ce qui se passait à propos de ses créations. Et il m'a confié ensuite d'autres traductions comme Le voyage du capitaine Fracasse, j'ai traduit le scénario du voyage du capitaine Fracasse, et puis le scénario aussi de Questrano chiamarsi Federico.
Et il a même dit que ta traduction de la giornata particolare, c'était meilleure que l'original, en fait.
et comment tu l'as connu? Enfin, peut-être que Alain va peut-être donner quelques petites informations par rapport à Huguette
oui,
Atem.
Parce que Huguette, qui a été comédienne et professeur d'italien, mais a aussi traduit le sicilien Pirandello, le napolitain Eduardo De Filippo, le théâtre, et puis Goldoni, le vénitien dont on parlait tout à l'heure à propos de la Vedova. Et donc voilà, tout ce théâtre qu'elle a traduit, il y avait déjà des traductions, par exemple, il y avait Benjamin Crémieux qui avait traduit Pirandello, mais même le français change, donc d'une génération à l'autre, la traduction doit évoluer. Et puis donc, Eduardo, que vous avez connu.
Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Eduardo De Filippo. J'ai eu la chance qu'il me confie ses traductions. J'ai traduit une vingtaine de pièces d'Eduardo qui ont été représentées en France.
Voilà, et notamment
La grande magie.
La grande magie qui a été donnée.
Voilà, qui a de la ville. Qui n'est pas encore très, très connu en France. Enfin, il est connu dans le monde théâtral, mais le grand public.
Ah oui, oui. Enfin, il est un petit peu oublié, on va dire. Oui. C'est le pur napolitain aussi. Mais enfin, bon, en tout cas, il y a eu à la fois cette grande magie à la Comédie française, encore qui est jouée. Il y a eu un film fait par Noémie Wlodowski, également
avec
La Grande Magie.
Podalides.
Avec qui l'avait interprété. À la Comédie française. Donc, il y a une actualité.
Et Emmanuel de Marcimota a remonté la grande magie au Théâtre de la Ville.
Quelque part, on revient à Scola, tu étais de la famille, quoi.
Oui, absolument.
Parce qu'il a failli.
Non, mais j'ai été très touchée par le dernier film, par tous les films d'Ettore Scola, parce qu'ils sont magnifiques. Mais ce dernier film, où il met exactement comme a dit... comme tu as dit tout à l'heure, sa famille. Et je pense qu'il savait que ce serait son dernier film, puisqu'il ne voulait plus tourner. Et je crois qu'il a mis toutes les personnes avec qui il tenait. Et moi, il m'a fait traduire le scénario. J'ai été très, très touchée de faire partie de cette famille cinématographique. C'est une chose.
Oui, mais elle est ma tante française. Je le dis souvent. Elle est absolument partie de notre famille.
Ouais. Alors, on va écouter un extrait du film C'eravamo tante amati. Et c'est la bande-son donc, du film de Scola de 1974. Donc, c'est juste une minute.
Sono i Gianni Pere che cambieranno questa società. In una società più giusta. L'Italia fu liberata. La guerra finì. Scoppiò il dopoguerra. La pace ci divise. Nel 1946 Gianni, Antonio ed io, ognuno nella propria città, partecipammo alle incandescenti giornate del referendum. Monarchia o Repubblica?
Gianni!
Antonio!
Gianni Perego! Ma come stai a Roma?
Ti presento la signorina Zanon Luciana. È Gianni Perego. L'amicizia non deve essere al di sopra di tutto.
Niente, è al di sopra di tutto. Io poi sono contrario all'amicizia. È una combutta tra pochi. È una complicità antisociale.
No, non ha mollato moglie e figli.
Io gli ho dovuto lasciare, l'ho fatto per un'idea.
Non sembra la scusa dell'idea, è troppo comodo.
Ho menata una monaca, motivi politici.
Ma vai, schietto quello che sei. Io la casa mi incarta dalla mafia ricordissima.
E tutto questo perché? Per un futuro diverso. Il futuro è passato e non ce ne siamo nemmeno accorti.
Marciavamo con l'anime spalla nelle tenebre lassù.
Voilà un extrait qui nous fait chaud au cœur parce qu'on s'imagine un peu les images, les séquences de ce film.
Et puis ça touche tout le monde parce que c'est la nostalgie de l'enfance, de le chemin qu'on aurait pu prendre et qu'on n'a pas pris, et les amis d'enfance qui chacun va avoir un avenir différent. Et là, c'est traité dans le comique beaucoup, mais c'est très nostalgique et le rôle de Stefania Sandrelli notamment. Et, enfin,
tous et très beau. Enfin, films tous sont extraordinaires. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que c'est l'un des plus beau film italien.
Ah oui, absolument, avec une journée particulière. Ce sont des grands films, ce sont des films magnifiques.
Oui, moi aussi, c'est les deux films de Scola que je préfère. Bon, tous sont bien, mais ces deux-là sont les plus riches. Il y a le rôle de Giovanna Ralli, qui est très beau, parce qu'il est presque antonionien. Et puis, c'est Aldo Fabrizi qui joue le père, qui tu sais, il devient monstrueux.
Fort,
il y a le mariage.
C'est
pareil, là, on est en plein de comédies. Non, c'est très riche. Tous les personnages sont très riches et très, très bien étudiés.
Pour ceux qui n'ont pas vu de... Absolument, à revoir.
On parle du réalisateur, mais les scénaristes aussi sont très importants. Et Ruggero Maccari, notamment, a beaucoup collaboré au film de
Mais
Ettore
Scola travaillait beaucoup, beaucoup ses scénarios avant de tourner.
Oui.
Et d'ailleurs, je voudrais signaler un livre très important qui n'est malheureusement pas encore traduit en français et qui a été écrit par ses filles, Paola et Silvia Scola, et qui s'appelle Chiamiamo il Babbo. appelons papa, oui, parce que elle disait que chaque fois qu'il y avait un problème en famille, ils en parlaient à leur père, à leur grand-père, et ils résolvaient la question à chaque fois. Et c'est un film très extraordinaire parce que il montre comment leur père travaillait. C'est le regard de deux filles et de quelquefois d'une petite fille qui regardait par le trou de la serrure, vraiment par le trou de la serrure, comment son père travaillait avec les scénaristes. Et il travaillait des mois et des mois entiers avant d'établir un scénario. D'ailleurs, moi j'ai traduit le scénario de... du voyage du capitaine Fracasse, et je suis allée aussi sur le tournage quelques jours, et naturellement, tu n'as pas tout retenu de ce qu'il avait écrit d'abord, et j'ai vu que c'était un travail de très longue haleine, et en amont même du film. C'était vraiment quelque chose de très très beau.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement, plus d'un million d'années. Et toujours en été, y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse, y a plein de chiens, y a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement, plus d'un million d'années. Et toujours en été.
C'était pourtant bien.
te.
Comment on fait pour traduire un film italien pour une pièce de théâtre? Parce qu'on sait qu'il y a du dialecte, il y a de l'humour italien à traduire en français, ça ne marche pas toujours. Comment on arrive à combiner tout ça? Est-ce qu'on fait vraiment au pied de la lettre
C'est la question essentielle. C'est la question que tout le monde pose. Comment vous faites pour traduire les dialectes? Alors d'abord, il faut les connaître. Il faut bien connaître la langue française qui n'a pas, la langue italienne qui avait encore plus de 370 dialectes en 1945, quand on a recensé tous les dialectes italiens. Je dois dire que on se débrouille. C'est une question de traduction. Il faut chercher des équivalents qui puissent sonner à l'oreille comme différents et qui ne sont pas évidemment des empruntés à des dialectes français que nous n'avons pas. On a quelques langues quand même, l'occitan, le breton, mais l'alsacien, mais ça ne traduit pas les dialectes italiens. Par exemple, dans une journée particulière que j'ai traduit pour le théâtre et qui a connu déjà quatre représentations
en France, avec grand succès.
La dernière, avec Corinne Touzet, avec d'abord Nicole Courcel, avec Licia Casta récemment. Enfin, ce sont des rôles tellement magnifiques que les comédiennes sont attirées par cette pièce, par ce film, bien sûr, et par ces rôles. D'ailleurs, je dois signaler que ce sont les 90 ans de Sophia Loren qui a créé le livre. Et alors, justement, j'en reviens à ce livre. Et les filles de Ettore Scola ont écrit d'une manière alternée, chacune un chapitre. Et ce sont les souvenirs de comment travailler leur père. Et c'est un livre extrêmement important pour connaître Ettore Scola un peu d'une manière plus intime.
Alors, on va écouter une musique de film Brutti, Sporchi, Cattivi. Et ça c'est très étonnant parce que c'est des musiques d'Armando Trovajoli. Alors, on rappelle que les musiques de film dans les cinémas italiens, c'était d'une importance primordiale. Il y avait des très grands compositeurs, Morricone, etc., Trovajoli et d'autres. Et là, c'est étonnant parce que ce film est complètement différent de Scola, parce que là, il raconte l'histoire d'un bidonville. Ça n'a rien à voir avec une journée particulière ou avec cette nostalgie un petit peu de nous nous sommes tant aimés. Et pourquoi ce film? Est-ce qu'il a donné des explications parce que ça n'a rien à voir avec...
Ça n'a rien à voir, j'adore ce film. Lui, il a toujours eu beaucoup d'empathie pour les gens qui venaient de milieux plus défavorisés, disons. Et il était très sensible. Je ne sais pas, c'est un film un peu moins universel. Si je pense par exemple à Une journée particulière, qui a un message universel. Là, c'était vraiment la situation italienne, romaine des années 70, parce que cette réalité n'existe plus à Rome, effectivement. Du coup, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça.
Mais en France, ça a eu aussi un succès extraordinaire, ce film. Ah, extraordinaire, franchement. Mais c'est très étonnant, parce qu'avec, évidemment, le reste des films de Scola, on dit, c'est bizarre, ça n'a rien à voir avec ces personnages qui étaient vraiment incroyables.
Oui. C'est une grosse comédie, et des Italiens qui savent se moquer d'eux-mêmes aussi.
Ah oui, extraordinaire.
Ce que les Français ont plus de mal à faire, ils sont plus sûrs de les Français. Et s'il y a eu des bidonvilles quelque part, on n'en a pas fait une comédie. On les a ignorés, on les a cachés, exactement.
Ouais. On écoute la musique du film. Attends.
Oui, j'ai oublié de dire que parmi les grandes interprètes du théâtre, d'une journée particulière au théâtre, il y a eu Françoise Fabian avec Jacques Weber, qui a été le premier à créer le rôle de Mastroianni. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, Ettore Scola nous avait invités avec Mastroianni, parce que tout le monde désirait le connaître absolument.
Quand on écoute la musique Brutti, Sporchi, Cattivi.
Thank you.
joue dans Émilie du Châtelet.
Ah oui, voilà, c'est bien. Alors, on est avec Tommaso Lazzotti et puis également Huguette Atem pour nous parler de Scola, mais également de cinéma italien en général. Tout à l'heure, on parlait d'un livre qui serait peut-être bien de traduire en français sur... La fille de Scola qui a fait
Les filles. Toutes les deux, oui, on cherche justement à le traduire en français. Et il y a une préface de Pennec et je l'ai rencontré et il m'a donné l'adresse d'un éditeur. Je l'ai contacté, on va voir si ça peut se faire. Parce qu'il y a plein de renseignements, évidemment, sur leur grand-père, sur la famille, sur comment ils travaillaient. Et c'est un livre très jouissif en même temps, parce qu'il y a des anecdotes très drôles. Et c'était vraiment un document important sur... un grand cinéaste comme Ettore Scola. Et ce n'est pas seulement un grand cinéaste, je crois que c'est un grand littérateur en même temps, parce que ses scénarios sont toujours très beaux, très travaillés.
Parce qu'on a parlé effectivement des deux films que tout le monde connaît en France, mais il y a aussi d'autres. Il y a La Terrasse, il y a Le Bal, effectivement, Brutti Sporchi Cattivi, qu'on a survolé. Donc, en Italie, est-ce qu'on a pris conscience que cette période d'après-guerre qui a été extraordinaire pour le cinéma italien, on arrive à garder les archives? Est-ce qu'on restaure les films? Parce que là aussi, est-ce que c'est quand même quelque chose qui servira pour les futures générations?
Excuse-moi, je reprends en italien. No, sì, penso che sia sicuramente c'è una coscienza collettiva,
la volontà,
del fatto,
sì,
che quello è stato il periodo d'oro del cinema italiano, sì, e che probabilmente non si ripeterà. E non so se ci sono i soldi per restaurare tutti questi film. Spesso vedo che vengono restaurati in Francia, per esempio. Però no, sì, c'è una coscienza collettiva del fatto che ormai quello è un patrimonio, come la letteratura è un patrimonio del...
Sì, l'Italia, sì, sì, fa quello che devi fare per queste...
Sì, sì, comunque sì,
sì. Sì, sì, la Cineteca de Bologna, sì, restaure beaucoup de films. Sì, bon, sì. Peut-être qu'elle a moins de moyens actuellement, mais l'Istituto Luce,
oui, oui,
et
vrai,
puis le. Mais y compris que la Cineteca de Bologne a des bureaux maintenant à Paris. Il y a eu à l'Istituto Italiano, justement, un colloque sur la restauration des films, la conservation des films, la restauration des films, où justement il parlait de Scola, qui est la journée particulière, qui était déjà un ton sépia. Et donc, c'était difficile de restaurer. Pas,
bobines,
il ne faut pas trop, ni pas assez. Donc, souvent, quand le chef est encore vivant, il peut aussi conseiller. Non, c'était un colloque très intéressant. Et donc, y compris, on a appris là que la Cineteca avait des bureaux en France et travaillait en France, bah, dans un laboratoire, même en France, pour restaurer.
Je crois que la famille a été restaurée en France.
C'est possible, je n'ai pas le détail.
Alors, on parle, s'il nous reste que quelques minutes, d'une actrice qui peut-être va venir en France et qu'on va peut-être interviewer. Qui
mais c'est une actrice qui joue dans La Terrasse, n'est-ce pas?
Oui.
Milena Vukotic.
Elle est l'épouse de Trintignant dans La Terrasse.
Dans ce film, voilà. Et donc, c'était une ballerine à l'origine?
Oui, c'était une danseuse. Elle faisait partie de quand elle avait 16, 17 ans, elle vivait en France et elle faisait partie des ballets du Marquis de Cuevas, qui était une grande compagnie à l'époque. Et puis, quand elle est arrivée en Italie, elle a commencé une carrière au cinéma, une grande carrière au cinéma. Et elle a tourné avec les grands.
Avec Fellini.
Scola. Et d'ailleurs, elle vient d'avoir.
L'Oscar. Enfin, pas l'Oscar, le.
David à la carrière.
Oui, elle a eu le dernier.
Et en France, elle a joué une pièce d'Eduardo de Filippo avec moi, d'ailleurs, Les Voix intérieures, qui se donnait en même temps que La Grande Magia de Strehler à l'Odéon. Et c'est une femme absolument extraordinaire qui joue Pirandello, qui n'arrête pas de jouer partout.
Parce que Huguette Atem est aussi comédienne.
Oui.
On l'a vu dans les journées particulières.
Oui.
On se rappelle, il y a une dizaine d'années. Avec Corinne Touzé. Alors, ça va être bientôt la fin.
Et Milena, justement, sera à Paris le 1er octobre. Elle sera Émilie du Châtelet à l'Istituto Italiano di Cultura.
Huguette, est-ce que tu travailles encore? Est-ce que...
Ah oui.
On ne peut pas dire ton âge, on le sait nous, mais c'est extraordinaire. C'est, quand Thomas, on m'a dit ton âge, je me dis, on s'est dit, mais c'est vrai ou on scherce, non?
Moi, j'ai cette chance de pouvoir travailler, bravo, puis c'est mon plaisir en même temps.
Ouais.
Donc, ça a été toujours à la fois un effort, parce que le travail, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas simple. Et j'ai eu la chance, par exemple, d'avoir une commande sur un Goldoni que je n'avais jamais traduit il y a 2 ans, qui a été joué à Nevers et qui était très beau. Et ça a été une souffrance, parce que ce n'est pas facile de traduire Goldoni et en même temps un grand plaisir.
Merci Huguette Atem, tu reviendras quand tu veux dans les studios, et puis à Thomas Olazotti.
Merci à vous.
Oui Alain
Oui, alors pour gagner des invitations pour la veuve rusée, on donne quel numéro
Alors le numéro c'est le 06 95 66 31 59, parce que effectivement, comme on a le téléphone pour l'instant qui
je répète qui lentement pour que les gens aient le temps de noter, 06 95 66 31 59. Voilà. Et vous, la question est d'où est originaire Goldoni?
D'accord, quelle ville? C'est même pour moi. Je sais plus, je veux pas gagner des places parce que je sais pas. Thomas, tu voulais saluer quelques personnes avant qu'on se quitte? Non, bah, c'est difficile. C'est une chaîne, hein.
La maman.
Tout le monde, je vous aime.
Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir.
Tu reviens quand tu veux. Et alors, je crois que Huguette, elle te.
Parole à Sylvie, évidemment, je sais.
Voilà. Et puis également, donc, on va terminer avec un extrait de Nous nous sommes tant aimés, tout petit extrait très très court de 43 secondes. Et après, on laissera la place au journal d'info de RAF 10h30.
Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
Amis.
La messe est dite.
Oui, la messe est dite. Alors, on est là. Si. Les auditeurs, n'oubliez pas de nous appeler. Alors, le téléphone, pour l'instant, a changé. C'est le 06 95 66 31 59. Il faut le noter parce que c'est pas forcément évident de se rappeler. Et moi, je voudrais faire un truc. Allez, Raph, oui. Allez, sois bien. Allez, on va faire Forza Toro, dai.
Allez, Forza Toro.
Voilà, attends. Un.
2, 3,
Forza Toro!
Voilà, pour faire plaisir à notre ami Renatino.
Bene. C'est bien, c'est bien.
Bon, Raphaël. Oui. Bon, là, on rigole plus. Alain, comment va-t-il? Ça va, t'as l'air de dormir, là. Si jamais tu t'ennuies, hein, tu le dis. Hein. Voilà, on remercie Huguette Atem et puis nos invités, Thomas Lazotti. Soyons sérieux. Oui. Quand est-ce qu'on se revoit, nous?
Bah, incrociamo le dita. Se tutto va bene, domenica prossima a partire dalle 8.
Sì, d'accordo, da partire dalle 8, domenica prossima.
Se tutto va bene.
No, a notre ami Renatino Sabra, ce sera sûrement Cantalina. On salue Enrico Mastro Giovanni, qu'on a rendu fou aujourd'hui. Pazzi! Però va bene. Insomma, ecco, bravo, bravissimo. Allez, bon week-end à tous, bonne semaine. E a domenica prossima.
A domenica prossima. Che Dio ce l'avanti buona.
Arrivederci.
Ciao, ciao a tutti.